Bonsoir à tous. Avant de lire un texte dans la parole, j'aimerais juste vous poser la question, d'après vous, que faudrait-il pour un homme, une femme, pour qu'il puisse vivre dans le monde aquatique? Je pense qu'il faudrait être autre chose qu'un homme et une femme. Je pense que, voilà, un poisson, ce que vous voulez, mais pas un homme. On est tous d'accord. L'homme n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Un homme ne peut pas survivre en restant dans l'eau, c'est pas possible. Parce que on est des hommes, des femmes, et nous on vit dans l'air. Et si jamais on voulait pouvoir vivre dans l'eau, il faudrait qu'on soit autre chose, qu'on ait une nature différente. Une autre question qui me tarabustait aujourd'hui, que j'ai déjà posée cet après-midi, mais je vais la reposer. Combien de temps arriveriez-vous à regarder le soleil les yeux dans les yeux? Combien de temps? Combien de temps on tient? Je vous encourage pas à faire le test. Parce que celui qui le fait, il risque d'avoir la rétine complètement brûlée. Autrement dit, il y a un objet que nous voyons, qu'on ne peut pas regarder. On ne peut pas le regarder. Dieu a été capable de créer quelque chose que nous pouvons voir sans le voir. On peut le voir, mais sans le contempler vraiment. Parce que celui qui le regarde, il pourra aller à l'hôpital. Dieu a été capable de faire ainsi quelque chose que nous pouvons voir et qui pourtant nous est inaccessible. Je me suis posé la question, je me suis dit, si dans ce monde visible, il y a déjà des choses qui existent, qui nous sont inaccessibles même au regard, à combien plus forte raison, dans le monde invisible, tout nous est inaccessible. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'homme, il espère aller au paradis, il espère aller au ciel sans rien changer. Mais il ne se rend pas compte à quel point c'est impossible. Et il ne se rend pas compte à quel point il ne pourrait pas le supporter. Parce que sans la nature adéquate, c'est un monde dans lequel il nous est impossible de vivre. Il nous serait impossible de vivre. Si des pécheurs avaient accès au ciel, pour eux, ce serait l'enfer. Entre guillemets. Ça serait quelque chose d'impossible. Parce que devant la pureté, l'éclat du royaume céleste, il serait consumé sur place. On a un corps qui ne nous permet pas de supporter ce monde-là. Nous sommes dans un monde où il y a le péché qui est là. Nous sommes dans un monde où notre corps s'est entremêlé avec le péché. Nous sommes ce que nous sommes. Et aujourd'hui, ce monde céleste ne nous est plus accessible, nous est pas accessible. Parce que nous sommes des êtres qui sont tirés de la poussière de la terre. Nous ne sommes pas d'en haut. J'aimerais qu'on lise ce premier texte dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. C'est un texte qui sera le fondement de cette prédication. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour avoir accès, et c'est simplement pas le fait de pouvoir y entrer, mais c'est le fait aussi de pouvoir y vivre. Il nous faut ce cœur changé d'abord, qui nous permettra ensuite d'avoir un corps changé. Mais le cœur changé, ça reste, je dirais, le passeport. Sans ce cœur changé, ce monde-là ne nous est même pas supportable. Et j'aimerais qu'on puisse lire quelques textes qui le prouvent dans la parole de Dieu. J'ai mis pour titre à ce message « Des bien-aimés qui tremblent ». Dans la parole, on le voit. Et quand un homme, c'est des exemples concernant deux hommes, quand ils sont confrontés au monde céleste, ils tremblent, et laissez-moi vous dire, pas qu'un peu. Alors lisons ces quelques textes, parce que ça me semble important de le réaliser, parce que il y en a plein qui aimeraient tant aller au ciel sans rien changer, mais c'est pas possible. Et j'espère que cette prédication pourra vous ouvrir les yeux sur la nécessité d'être changé, d'avoir cette nouvelle nature. Dieu ne fait pas de bricolage, il ne fait pas de réparation, et on ne travaille pas à s'améliorer parce que cette nature-là ne peut pas supporter ce monde céleste. C'est impossible. Impossible. Il nous faut une nature adéquate pour que nous puissions aller au ciel. Et ensuite, le Seigneur nous changera dans un nouveau corps. Et là, on pourra s'épanouir dans un monde qui sera le nôtre, finalement. Regardez l'histoire de Daniel. Daniel, c'est impressionnant le nombre de versets qu'on trouve où on voit sa réaction face à ce monde-là. Et quand on lit ces textes, on réalise vraiment qui on est devant la grandeur de Dieu. Daniel, chapitre 7. Daniel est un homme que Dieu aime, et on va le lire. Et malgré tout, on va voir que, malgré tout l'amour que Dieu lui porte, Daniel est limité. Et au même titre que Daniel, nous sommes aussi limités. Et nos limites, il nous faut les reconnaître. Il nous faut absolument ce corps nouveau pour pouvoir espérer avoir cette vie éternelle. C'est obligatoire. Daniel n'a pas été confronté très longtemps à ce monde, et pourtant, quelle réaction il a. Plusieurs reprises, il va avoir des visions, et quand on regarde ce qui se passe, eh bien, je dirais presque que ça fait froid dans le dos. Des fois, en tant que chrétien, on se dirait « Ah, j'aurais aimé avoir de telles visions ». Mais si on prend tout le package, on va le voir, c'est pas si... Il y a le côté face aussi. Daniel, chapitre 7, verset 15. Daniel a une vision. On ne va pas lire les visions. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de voir comment il réagit. Daniel 7, 15. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Mes visions m'épouvantèrent. » Il n'est même pas question de peur, là. Il est question d'épouvante. Il est épouvanté. Je ne sais pas si on mesure ce que ce mot veut dire, mais quand on est épouvanté, c'est vraiment que on a atteint la peur au top niveau. C'est la vision, il va avoir la vision. Et au verset 28, on a la confirmation encore de ce qu'a ressenti Daniel à la fin de la vision. C'est ici la fin du message. Moi, Daniel. Là, ça va plus loin encore. « Je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur. » C'est quelqu'un qui était, on va dire, qui était d'une... il avait cette nature humaine, mais son être spirituel, quand même, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. On va le lire tout à l'heure. Il était un bien-aimé de Dieu, et malgré tout, d'un point de vue spirituel, Daniel est quelqu'un qui va bien réagir et qui va retenir ces choses dans son cœur. C'est pour ça. On va dire qu'il était l'homme de la situation. Il était celui qui pouvait, à la limite, supporter de telles visions. Mais on n'est pas tous Daniel. Hein. Lui, il avait l'étoffe de quelqu'un qui pouvait recevoir, d'un point de vue terrestre, ces visions-là, parce qu'il aurait été capable, il était capable, il a été vu capable de les gérer aussi. Parce que gérer ces visions-là, c'est pas rien. Et ce n'est que des visions. Daniel, au chapitre 8, au verset 27, il y a là une autre vision. Alors, on lit les visions à la queue leu-leu, mais Daniel a eu ses visions, c'est des visions qu'il a eues. Il a vécu 80 ans. Hein. Donc, on ne sait pas exactement à quel âge il avait quand il a eu chaque vision. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois que ça arrive, pour le pauvre Daniel, je dirais, c'est pas simple à gérer, vraiment. Au verset 27, suite à une vision, voilà comment il réagit. « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade. Puis je me levais et m'occupais des affaires. » Il a une vision. Les conséquences de la vision, c'est qu'il va être malade pendant plusieurs jours. C'est pour dire à quel point notre corps terrestre ne peut pas supporter ce monde-là qui nous dépasse. On continue. Daniel, chapitre 10. Là, on va lire un petit peu plus. Verset 7. On va lire jusqu'au verset 11. Ce verset 7, il est très intéressant parce qu'on voit aussi la réaction d'autres personnes qui, elles, n'appartiennent pas, qui n'ont pas ce cœur de bien-aimé. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Rien que ça. Quand je lis ce verset, je me dis que tous ceux qui se disent « Moi, je vais aller au paradis, ou je vais planquer ce que je peux planquer, et puis normalement, ça devrait le faire, je ne fais pas trop de choses mauvaises, je vais aller au paradis. » S'il y allait, si cette personne y allait, elle aurait le même réflexe, elle ne pourrait pas le supporter. Elle ne pourrait pas le supporter. Ces hommes qui n'avaient pas ce cœur de bien-aimé, qui n'avaient pas ce cœur comme avait Daniel, non seulement, ils ont vu quelque chose quand même, de la même manière qu'on peut voir le soleil. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait? On va le regarder, mais tout de suite on fuit, parce que si on reste à regarder le soleil, on va s'abîmer les yeux. Et ces personnes, c'est exactement ce qui se passe. Ils sont devant une vision, quelque chose de céleste, et ils ne peuvent pas le supporter. Alors ils fuient. Daniel, lui, il a un cœur différent. Il a un cœur différent qui lui permet peut-être d'aller plus loin. Mais néanmoins, vous allez le voir, c'est quand même pas simple pour lui, même si lui ne fuit pas. Verset 8. Je restais moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage pâlit et fut décomposé. Et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. En d'autres termes, qu'est-ce s'est-il passé? Il a perdu connaissance. On peut le dire comme ça. Et il a, en perdant connaissance devant la grandeur des révélations qu'il avait devant lui, il s'est retrouvé au sol, à terre. Il est tombé de sa hauteur, il a perdu connaissance, littéralement, devant la grandeur de la révélation qu'il est en train de voir. Je ne sais pas si on réalise. Mais ce n'est pas fini. Verset 10. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Donc la main l'a soulevé. Il était au sol, allongé, la face contre terre. La main le prend par en dessous et le soulève. Notre pauvre Daniel, il se retrouve à genoux, les deux mains au sol. Mais il n'est pas bien, notre Daniel. Il a la nausée. Il est très très mal. Il ne peut pas supporter ça. Et pourtant, on lit ensuite, verset 11, « Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé. » C'était un bien-aimé. Avec le cœur qu'il avait, quelque part, ça fait réfléchir de voir comment il supportait la chose. C'était terrible, c'était une épreuve pour lui, vraiment. Pourtant, c'était un homme bien-aimé. « Comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il a été relevé jusqu'à être à genoux et Daniel a pris sur lui, il s'est remis debout, mais il en tremblait encore quand même devant la vision. Et la vision ensuite va lui être donnée. Quand un homme tel que vous et moi avons accès aux réalités célestes, voilà dans quel état ça nous met. Et aujourd'hui, on entend plein de personnes qui fanfaronnent et qui disent « Mais moi, je veux aller au paradis, moi, je veux aller au ciel. » Eh bien, vas-y au ciel tel que tu es, tu vas voir. Tu ne pourras pas le supporter. Il te faut être changé. On peut continuer avec Daniel au verset 15. Il a la vision, au verset 15, voici ce que nous lisons. « Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. » Comme quelqu'un qu'on sermonne, qui a peur. Et voici quelqu'un qui ressemblait au fils des hommes, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé et je n'ai plus aucune force. » Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé. » À nouveau, cette parole qui va donner justement du crédit à Daniel. Ce titre de bien-aimé, c'est Dieu qui le lui donne pour qu'il puisse savoir que Dieu l'aimait et qu'il ne mourrait pas. Est-ce que ce soir, tu peux, dans ton cœur, te dire « Oui, je suis un bien-aimé. » Dieu aime tous les hommes. Dans la parole, il y a un verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu aime tous les hommes, mais pour autant, ça ne fait pas de moi un bien-aimé. Je serai un bien-aimé quand je serai réconcilié avec Dieu. Alors je pose la question, est-ce que oui ou non, tu es un bien-aimé ? Ici, Daniel est un bien-aimé et il va pouvoir être fortifié par Dieu. Celui qui n'est pas bien-aimé ne sera pas fortifié par Dieu. Et dans une situation telle que celle-ci, quand les hommes et les femmes auront accès à ce monde céleste, tous ne seront pas fortifiés, loin de là. Seuls ceux, celles et ceux qui auront fait la paix avec Dieu seront changés et pourront ainsi pouvoir jouir même de ce monde-là. Aujourd'hui, on ne peut pas y avoir accès. Un autre exemple, là c'est plus court, il y a un peu moins de texte, mais quand même, dans le Nouveau Testament, on a le même type d'exemple et il est d'autant plus frappant que c'était le disciple même qui se tenait sur le sein de Jésus, le disciple même qui entendait battre le cœur du Seigneur. Et quand on lit l'Apocalypse au premier chapitre, au verset 17, on lit cette parole « Quand je vis, quand je le vis, donc c'est Jésus-Christ, c'est une description glorieuse de Jésus-Christ, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte ». Et lui aussi était un bien-aimé. Et il a été fortifié. Mais l'effet de la vision a été le même. Bon, c'est résumé. Là, on a moins de détails que pour Daniel. Mais c'est la même chose. Ce même corps qui est soumis au péché ne peut pas supporter le monde invisible. Le monde céleste ne nous est pas accessible. J'aimerais que le peu de texte qu'on a lu ce soir nous en convainque. On ne peut pas avoir accès au paradis de Dieu, dans l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est impossible. Il nous faut être changés par Dieu. Pourquoi ? Parce que notre corps est un corps qui est dans le péché. Et on ne peut pas être réconcilié avec Dieu si on n'a pas fait cette démarche. Il y a une solution qui nous permet d'être une nouvelle créature. Mais il nous faut y réfléchir, sérieusement. Parce que si ce soir, ma vie m'est redemandée, je vais vers le monde céleste. Ici, on a affaire à des bien-aimés qui tremblent. Des bien-aimés qui tremblent. Je ne sais pas si on réalise vraiment. Des bien-aimés qui tremblent. Le monde spirituel, il fait peur. Il nous fait peur. Il suffit que vous ayez des apparitions et vous allez trembler. C'est normal parce qu'on n'est pas fait pour le monde spirituel. Il ne peut que nous faire peur. Et il fait tellement peur que des hommes, des femmes, alors qu'ils sentent qu'ils s'approchent de ce monde-là, ils en tremblent déjà, alors qu'ils sont encore sur la terre. Ils savent qu'ils vont passer de l'autre côté. Ils n'y sont pas encore, mais ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils savent que ce monde-là leur fait peur et qu'ils vont y aller et qu'ils ne sont pas prêts à y aller. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nature adéquate. C'est comme si on allait vous noyer dans l'eau. C'est comme si on allait vous plonger dans l'eau et vous savez que vous allez y passer. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas vivre dans l'eau. C'est pas possible. Et ces personnes qui ne sont pas réconciliées avec Dieu, qui n'ont pas eu cette nouvelle nature, eh bien, elles sont là. Elles savent que ce monde-là approche et qu'elles ne savent même pas quand est-ce qu'elles vont passer de l'autre côté. Et elles tremblent déjà. Que sera-ce quand elles y seront? Elles ne font qu'y penser, elles tremblent. Le Seigneur, il a tout fait pour qu'on puisse ne pas trembler. Et c'est quand même la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer ce soir. Je voudrais pas vous faire peur. Mais ce soir, ce que j'ai à cœur qu'on comprenne, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, a envoyé le Seigneur, lui qui est né d'en haut, lui, à l'inverse de nous, il est venu dans notre monde. Et alors qu'il fait plein soleil, pour lui, c'est des ténèbres. Lui, il vient d'un monde où c'est l'éclat. Comme le soleil qu'on ne peut pas regarder. Il vient d'un monde où c'est l'éclat. Lui, il arrive dans une terre où il fait noir pour lui, même en plein soleil. Il vient dans les ténèbres. Il est venu dans nos ténèbres. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est dépouillé de toute sa gloire pour que nous puissions avoir accès à ce monde de lumière. Il est la lumière du monde. Il est venu, il a marché parmi nous, sans péché. Et nous l'avons condamné. Il est mort pour nous. À la croix du calvaire. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions vivre cette expérience de ce changement miraculeux. Non, le Seigneur n'améliore pas notre cœur. Il le remplace. Et il le remplace par un cœur qui pourra avoir accès à ce monde céleste. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses avoir cette démarche sincère auprès de Dieu, qui, alors que tu réalises peut-être que oui, tu pensais peut-être pouvoir t'en tirer sans trop changer quoi que ce soit, et tu réalises peut-être là maintenant que si ton cœur n'est pas changé, tu ne pourras pas supporter. Quand bien même tu iras au paradis, tu ne pourrais pas le supporter. C'est impossible. L'apôtre Paul écrit aux Romains qu'il n'y a pas de distinction, tous sont péchés. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et je dirais, dans notre état, heureusement. Parce que si la gloire de Dieu était parmi nous, alors que nous sommes dans le péché, on serait consumés. David écrit, on peut le lire, dans le psaume 51. David, à un moment donné, a vécu quelque chose de terrible. Et le psaume 51 est un psaume qui retrace un peu la prière qu'il a faite à Dieu. Où il demande à Dieu de le laver, de le purifier, de le changer. Il reconnaît au verset 7. « Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça fait référence peut-être à de l'adultère, on n'en est pas certain. Mais en tous les cas, son corps, il parle de son corps. Un corps qui est naturel, qui nous pousse au péché. C'est comme ça. Personne n'arrive, tel qu'il est, à maîtriser le péché qui est en lui. C'est impossible. Et pourtant, on lit ensuite David qui quand même crie à Dieu parce qu'il croit que Dieu est capable de faire quelque chose. Pour lui, la situation, elle est insoluble. Il ne sait pas comment il peut s'en sortir parce qu'il sait qu'il est censé être puni, parce qu'il mériterait d'être puni. Et il va implorer Dieu. Il va implorer Dieu de tout son cœur et il va le prier et il va dire au verset 9 « Purifie-moi ». Avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige, ce blanc éclatant. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous voyez, c'est même ce mot-là, il se rend bien compte que son cœur, il peut pas. Même en améliorant un truc tel qu'il est, c'est... Il n'y a rien à faire, tout est à jeter, je dirais. Dieu est obligé de créer quelque chose de nouveau, de quelque chose qui ne vienne pas de ce sol, de cette poussière, mais un cœur qui vienne d'en haut. Et c'est la prière de David qu'on peut faire ce soir, que tu peux faire peut-être ce soir. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce cœur pur, ce cœur qui vient d'en haut, fera que dans ton esprit, tout va changer. Ta vie va changer, alors que peut-être tu ne seras pas encore au ciel. Sur la terre déjà, ce cœur nouveau va complètement changer ta vie. Ce cœur va complètement changer ta vie. Tes aspirations seront différentes. Tu seras une autre personne. Tu seras une autre personne. Quelle différence y a-t-il entre un chrétien né de nouveau et une personne qui vit dans le péché? La personne qui vit dans le péché, elle est à l'aise dans ce monde terrestre. Et dans le monde céleste, elle ne peut que trembler. Le chrétien qui est né de nouveau sera peut-être pour un temps mal à l'aise dans ce monde terrestre. Mais dans le monde céleste, il sera comme un poisson dans l'eau. Parce qu'il aura ce nouveau corps. Il aura ce cœur nouveau, préfigure ce qui va tout changer. Pour l'instant, nous sommes sur la terre. Ce qui change, c'est simplement l'intérieur, notre cœur. Et de ce cœur changé peut naître un homme, une femme, toute nouvelle, qui déjà sur la terre est complètement différente. Mais ça ne fait que annoncer quelque chose de bien plus glorieux, un corps nouveau que Dieu nous donnera pour ceux et celles qui auront fait la paix avec Dieu, ceux qui auront déjà ce cœur changé, ceux qui auront fait cette expérience, ceux qui auront fait cette même prière qu'a fait David. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. David était conscient de son péché, il était honnête avec lui, il savait qu'il était dans le péché, et il ne cherchait pas à se trouver d'excuses. Mais il a imploré Dieu, tel qu'il était. Il était OK sur le fait qu'il ne méritait pas d'être pardonné. Néanmoins, il savait que Dieu était bon. Il savait aussi que Dieu l'aimait. Et toi aussi ce soir, peut-être que tu peux avoir cette même prière, sachant que Dieu t'aime. Il a prouvé son amour dans le fait que Jésus est mort pour toi sur la croix. Il t'aimait déjà alors que tu étais dans le péché. Je paraphrase Romains 5:8, je le tourne d'une autre manière, mais c'est ça. Tu peux être assuré de l'amour de Dieu à ton égard. Et son désir, ce soir, c'est que tu puisses passer de la mort à la vie, de ce cœur, ce corps qui ne te permettra pas d'accéder au ciel, à un cœur nouveau qui te permettra d'être dans le ciel, d'y entrer, mais aussi d'y vivre. Parce que le Seigneur Jésus te donnera ce nouveau corps qu'il veut te donner. Tout ce que je dis, c'est écrit. On peut le lire quand même, parce que pour nous qui sommes chrétiens, ce sont toujours des paroles qui nous font du bien. 1 Corinthiens, chapitre 15, et verset 51. Et jusqu'au verset 57, voici ce que nous lisons. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce que ça veut dire, c'est que notre corps tel qu'il est, comme je l'explique depuis le début, ne peut pas supporter ce monde-là, ce monde spirituel, ce monde céleste. Notre corps ne peut pas le supporter. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Et c'est ce que nous lisons, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la seule œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, celui qui a cette même prière qu'a fait David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, pardonne mon péché. Oui Seigneur, je réalise que si je reste avec ce cœur-là, je n'ai pas accès à cette belle place que tu voudrais me réserver. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose en moi. Change-moi, change mon cœur. Celui qui vient à Dieu, qui vient à Jésus, avec ce cœur-là, il pourra vivre cette expérience. Il pourra être changé et vivre déjà sur la terre ce changement merveilleux qu'est ce nouveau cœur que Dieu veut te donner. C'est Jésus qui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est Jésus qui le dit, mais au sens pas que ça lui est interdit. Ça lui serait interdit, c'est vrai. Mais même si ça ne l'était pas, il n'aurait pas la capacité de le voir. Il n'aurait pas la capacité de le supporter. Il nous faut être changés, c'est impératif. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur compare ce lieu merveilleux qu'est le monde céleste à un lieu de repos, un lieu de félicité, de joie, de paix éternelle. Peut-être que dans ton cœur, déjà même sur la terre, si tu vis cette expérience de ce cœur changé, tu verras combien sur la terre, déjà, des choses seront différentes. Une paix que tu ne pourras pas décrire. Pourquoi ? Parce que c'est une paix céleste. Et tout ce qui est céleste, on ne peut pas trouver de mots pour le décrire. Une joie céleste que tu ne pourras pas décrire. Parce que ton cœur aura été changé. Si seulement tu voulais t'approcher de Dieu. Si seulement tu voulais, dans ton cœur, appeler au secours envers celui qui désire tant et tant. Que tu réalises que tu as besoin de sa grâce. Ce cœur nouveau, il veut te le donner. C'est à toi de le saisir. Tu peux t'approcher de Dieu. Si ton cœur est repentant, si tu réalises combien tu as besoin de sa grâce et tu lui demandes de l'aide de tout ton cœur, dans ton cœur, tu peux le faire. Qui veut demander la grâce de Dieu ce soir ? Qu'il lève la main. Est-ce que quelqu'un veut appeler Dieu, veut lui dire au secours ? Peut-être que tu n'as pas le courage de faire une prière, que tu n'y arrives pas. Lève la main. Demande au Seigneur sa grâce sur ta vie. Reconnais que tu as le Seigneur te voit. Tu peux baisser la main. Tu peux baisser la main, je t'ai vu. Reconnais que tu as ce besoin de changer. Fais appel à Dieu. Il veut tellement te faire de bien. Il veut t'entourer de son amour, de sa grâce. Il veut que ta marche sur la terre soit rendue plus facile parce qu'il veut t'accompagner dans tes journées, chaque jour. Il veut te faire du bien, mais bien plus que cela, il veut te donner ce cœur changé qui te permettra d'être avec lui pour l'éternité, dans la joie et la paix. Est-ce que quelqu'un d'autre veut demander à Dieu du secours ? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Celui qui ne répond pas à la grâce, c'est biblique, il va s'endurcir. Et les appels répétés feront que il y aura une insensibilité qui sera là. Le Seigneur veut t'éviter de passer l'éternité loin de lui. Je renouvelle une dernière fois mon appel. Qui veut demander au Seigneur sa grâce ? Qui veut implorer à Dieu du secours ? Qui veut que son cœur soit changé ? Je vais prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as vu la main qui s'est levée. Je te prie, Seigneur, pour que maintenant même, cet ami qui a levé la main, qui t'a imploré du secours, puisse vivre cette expérience de cette nouvelle naissance. Oui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses intervenir maintenant dans la vie de cette personne et qu'elle puisse tout à nouveau vérifier que tu es bien celui qui veut nous donner ce cœur nouveau. Tu es celui qui veut nous changer en entier. Tu n'es pas celui qui veut que nous nous améliorions. Mais non, tu es celui qui veut nous changer, toi. Seigneur, je te prie pour cette personne. Et en même temps, je te rends grâce. Parce que des personnes ont pu réfléchir vraiment sur leur vie. Je te prie pour tous ceux et celles qui peut-être dans leur cœur vivent encore ce combat. Je te prie, Seigneur, pour que ce combat ne s'arrête pas jusqu'à temps que cette personne est appelée au secours. Oui, Seigneur, tu respectes notre libre choix et tu ne nous obligeras jamais. Mais je te prie, Seigneur, pour que par le Saint-Esprit, eh bien, il y ait cette réflexion intérieure qui fera qu'au bout du compte, nous serons tous en règle avec toi. Oui, c'est ma prière que personne ne sorte de ce lieu sans être réconcilié avec toi. C'est notre souhait. Et je te prie, Seigneur, pour que quand tu reviendras, ce soit le cas. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, parce que vraiment tu nous veux auprès de toi et tu nous aimes de tout ton amour. Merci parce que tu nous l'as prouvé au travers de ce que le Seigneur Jésus a vécu sur cette terre. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.